Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Le témoignage d'Anne sera sans doute intéressant puisque vous dites que vous avez accompagné Anne des malades en fin de vie. Alors d'abord, disons les choses, même si peut-être c'est difficile pour vous de le dire publiquement, mais moi j'ai le sentiment qu'à l'hôpital, parce qu'on a tous été confrontés avec nos proches, il y a une forme d'euthanasie officieuse qui se met en place, disons-le, et on a le sentiment qu'il y a des pratiques qui ressemblent de très près à une forme d'euthanasie.
Bien, de toute façon, ça se pratique effectivement, comme je disais tout à l'heure, à votre collaborateur sous le manteau, depuis bientôt 30 ans. Je l'ai connu auprès de proches, je l'ai connu à l'hôpital, je l'ai connu effectivement auprès de patients. Seulement, on ne le dit pas réellement, mais à partir du moment où on dit à la famille, bon bah écoutez, je pense que là, il ne faut plus rien attendre et on va brancher la personne pour l'aider à partir, je suis désolée, c'est une forme d'euthanasie.
Bien évidemment, mais quels sont au fond aujourd'hui les arguments, parce que les arguments pour, on les entend beaucoup, hein, on l'a dit tout à l'heure, abréger les souffrances, la liberté, le choix du patient, éliminer les pratiques officieuses, mais quels sont les arguments contre ?
Bien, écoutez, les arguments contre, je pense que ce sont des arguments qui sont plus des arguments sociétaux et je dirais de communauté, tout simplement, communautaire. Après, les arguments pour, moi je vais vous dire sincèrement, il arrive un moment où la fin de vie est totalement indécente parce que même si les personnes n'ont plus vraiment conscience de ce qu'elles vivent, elles ont... Dans leur journée, elles ont quand même des petits flashs de lucidité. Et là, elles pleurent, ces personnes-là, elles pleurent parce qu'elles prennent conscience de l'état dans lequel elles sont. Et elles le disent franchement aussi bien à leurs proches qu'à leurs soignants. Mais pourquoi vous ne faites rien là ? J'en peux plus.
Vous
rendez compte ce que je deviens,
ce que je
suis devenue. Et c'est terrible. Moi, je l'ai vu même avec mon papa. C'était terrible, ces 3 minutes de flash de lucidité. Où on voyait ses larmes couler sur le visage et où il disait, mais aidez-moi à partir. Mais non, on ne peut pas t'aider.
Alors Mathieu est avec nous, Mathieu qui est pompier et qui voulait apporter peut-être un éclairage différent. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Moi c'est vrai que ça m'arrive aussi, voilà, professionnellement, voilà, de me retrouver face à la mort, hein, et face aussi à des personnes qui sont très souffrantes. Et ça m'est aussi arrivé personnellement. Un petit préambule. C'est que voilà, qu'est-ce que la dignité et aussi qu'est-ce qu'une maladie incurable ? Parce qu'en fait, il y a bien deux choses qu'il faut distinguer. C'est une personne qui a priori n'en a plus que pour quelques heures, quelques jours à vivre. Et aussi la loi prévoit ce qu'on peut appeler le suicide assisté. Hein, c'est bien marqué dans la loi, c'est-à-dire que c'est même des personnes pour qui la mort n'est pas imminente. C'est-à-dire que cette loi peut amener à faire assister au suicide des personnes qui ont peut-être encore 5, 10, 15, 20 ans d'espérance de vie.
Mais vous parlez de quelle loi ?
Eh ben, la loi qui est en débat actuellement.
D'accord, la loi qui est effectivement qui pourrait passer. C'est ça.
Oui. Elle précise bien, hein, même en l'absence de diagnostic de décès à brève échéance. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une maladie incurable ? Parce que si on en veut, voilà, la vie n'est-elle pas elle-même une maladie incurable ?
On peut jouer sur les mots, mais la maladie de Charcot, elle est, par exemple, elle est parfaitement incurable. Et aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Et que celui qui est atteint de cela, c'est précisément les étapes qui l'attendent. Et il a peut-être envie d'abréger ses souffrances.
Mais oui, mais la schizophrénie est aussi une maladie incurable. Voilà, ça amène quand même beaucoup de questions jusqu'où on veut aller. Et moi, j'ai entendu tout à l'heure.
Jusqu'où on veut aller, c'est d'ailleurs le patient qui décide. Hein. C'est pour ça que c'est toujours celui qui est au cœur, qui est concerné en premier, qui décidera.
Et ben justement, moi personnellement, pas toujours, parce que bon, j'ai l'exemple de mon beau-père qu'on a accompagné à domicile sur un cancer. Il a eu des jours qui effectivement étaient dans la souffrance, mais le gros drame, c'est que l'hospitalisation à domicile était très défaillante. Donc après, il a dû être ramené à l'hôpital en urgence, et ma femme est allée à l'hôpital et elle l'a trouvé mort dans un couloir. Donc, et après, voilà. Donc moi, le médecin qui vous disait tout à l'heure qu'à partir du moment où il y a des soins palliatifs qui sont mis en place, eh ben, une très très grande majorité des gens, eh ben, ça, il y a plein de messages de médecins qui sont en soins palliatifs, eh ben, ne veulent plus avoir une mort donnée. Voilà. Et ils acceptent la mort naturelle. Voilà. C'est-à-dire à partir de quand, hein, je pense que c'est le Rubicon. Bon, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais ce qu'a dit Michel Houellebecq là, c'est qu'on change de civilisation. Voilà. À partir du moment où on va accepter de donner la mort à un de nos compatriotes, à un de nos un de nos semblables, hein, parce qu'on est tous semblables, on est tous des êtres humains. Mais à partir du moment où on va l'aider à la mort, en fait, c'est un faux, voilà. C'est une fausse idée de faire parce que la dame dit depuis 30 ans ça existe, mais non. L'euthanasie, ça existe depuis que l'homme existe. Hein, voilà, mais c'est pas un argument en fait.
Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci de cet argument. Avec Anne, elle va pouvoir continuer le débat juste après la pause. Evelyne est là également, et c'est un sujet sur lequel quand même il y a une forme d'unanimité. Il y a près de 80 ou 90% des gens qui réclament de pouvoir choisir la fin de leur vie. C'est ça qui est étonnant, parce que sur les sujets sociétaux, c'est pas aussi large d'habitude. Je pense au mariage pour tous, je pense à l'avortement en son temps. Il n'y avait pas un consensus. Là, il y a plus de 2 Français sur 3 quand même qui sont favorables a priori à l'euthanasie. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Faut-il légaliser l'euthanasie ? La loi doit-elle évoluer sur le sujet de la fin de vie ? En avez-vous déjà parlé avec vos proches ? L'Assemblée nationale rouvre aujourd'hui le débat. Une proposition de loi du député Olivier Falorni ouvre un droit à une fin de vie libre et choisie. La chanteuse Françoise Hardy se bat contre la maladie. Elle était l'invitée hier d'On est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand.
Il faut avoir la possibilité d'arrêter sa vie. Pour le moment, j'assure, j'arrive à me faire à manger. Tant que je peux faire ça, ok. Mais si ça devient encore pire, si je suis affaiblie au point de ne plus pouvoir rien faire, moi je penserais sérieusement à l'euthanasie, quoi. Je ne peux pas rester comme ça à attendre que la mort arrive. Enfin, je veux dire, je ne peux plus faire les choses que ma vie requiert.
Laissez-nous la possibilité de partir dignement, demande Didier sur nos réseaux sociaux. Il faut faire un référendum sur le sujet, lance José. Ce n'est pas à nous élus de décider de notre fin de vie. Difficile de se prononcer, écrit encore Jacqueline. Et un choix personnel, réfléchi, poursuit Thierry. J'aurais aimé pouvoir enlever à mon père toutes ses souffrances physiques et pour nous, ses souffrances morales. Mais c'est ma perception.
Ce qu'on peut regretter, c'est que ce débat, c'est aujourd'hui l'Assemblée nationale qui examine en première lecture la proposition de loi pour une fin de vie libre et choisie. Ce qu'on peut regretter, c'est que ce débat qui mériterait infiniment plus qu'être évoqué comme cela, c'est une niche parlementaire en plus, c'est M. Falorni qui l'a mis en place, il ne va pas avoir un vrai débat à l'Assemblée nationale et ça va être escamoté. Donc c'est ça qu'on peut regretter. Il y a peu de chances que la loi, disons-le, puisse passer aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'amendements qui ont été mis en place qui vont freiner cela. C'est assez technique, mais c'est hélas une réalité. Alors Evelyne est là, bonjour Evelyne, vous êtes retraitée, c'est important de le dire, parce que peut-être que lorsqu'on a un certain âge, on n'a pas le même rapport à l'euthanasie lorsqu'on a 20 ans que lorsqu'on en a, ce qui est votre quoi, 69. Evelyne, bonjour. Evelyne ? Evelyne est partie. Evelyne une fois, Evelyne deux fois. Evelyne, Greg Caranoni, nous n'avons pas Evelyne.
Non, manifestement, elle ne répond pas.
Olivier est là.
On va la rappeler.
Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Olivier.
Bonjour.
Ah, vous êtes loin Olivier. Vous êtes médecin en hôpital. Oui. Vous êtes très loin là. Qu'est-ce qui se passe ?
Non, mais simplement, je cherche un endroit pour me garer, mais dans 30 secondes...
Bon, bah alors, on va revenir sur Anne quand vous serez garée. Et Anne, qui est infirmière, qui a été notre première auditrice et qui a écouté oui. les arguments de Mathieu, qui avait un peu peur. Mathieu, qui est pompier, est-ce que vous pouvez peut-être opposer quelques arguments, là aussi, à Mathieu ?
Mais écoutez, difficile d'opposer des arguments à Mathieu. Je crois que Mathieu, en tant que pompier, ben, il voit aussi, il gère ses rôles quotidiens, il vit aussi, malheureusement, ben, ces personnes dans la souffrance. Mais je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire, personne ne sait quand est-ce que ça peut s'arrêter, la souffrance, surtout dans une maladie incurable. Et une maladie incurable, eh ben, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être trois mois, ça peut être plus. Mais à partir du moment où on est une personne consciente qui demande à ce qu'on l'aide à partir et à ce qu'on fasse le nécessaire, eh bien, pourquoi est-ce qu'on s'y opposerait? Pourquoi est-ce que la société lui refuserait cet accès et ce droit? Maintenant, ben, les personnes, c'est toujours une histoire d'argent. Les personnes qui ont les moyens, elles vont aller en Belgique ou en Suisse. D'accord? Et celles qui n'ont pas les moyens, ben, elles vous le disent. Elles vous disent, ben, moi, si j'avais les moyens, je partirais en Belgique et en Suisse pour que tout s'arrête. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est quand même la pensée, je pense, de nombreux Français. Et je vois pas pourquoi on vivrait, on laisserait cette indécence de fin de vie s'installer, toujours s'installer, parce que de toute façon c'est ce que vivent les gens en général autour de ces personnes extrêmement malades. C'est une indécence d'une part, et d'autre part rester dans un débat hypocrite. Il faut arrêter cette hypocrisie.
Bah merci beaucoup Anne, merci d'avoir synthétisé effectivement ce débat de cette manière-là. Evelyne est là, nous l'avons retrouvée. Evelyne, bonjour.
Bonjour Monsieur Pro. Alors effectivement, j'ai peut-être changé beaucoup mes avis, mais en tout cas, je viens de fêter il y a trois semaines mes 70 ans. Et c'est vrai que effectivement, j'ai écrit un courrier, j'ai appelé mes enfants, j'ai écrit un courrier. Alors j'ai eu une très belle vie. Je suis pas malade du tout, hein, au contraire, je suis en très bonne santé.
Et c'est plutôt jeune, 70 ans aujourd'hui, disons-le. En tout cas, c'est pas l'âge de la mort.
Non, tout à fait. Donc j'ai 70 ans, j'ai eu une très belle vie, je veux une très belle mort. Et je suis désolée, ce n'est pas au gouvernement, à la limite, de passer une loi pour savoir si on veut mourir ou pas. C'est quelque chose qui est propre à soi. On devrait, effectivement, quand on souffre le martyr d'un cancer incurable, le mot est important, incurable, c'est-à-dire que avec l'avis des médecins, aucun médecin vous dit « Non, mais madame, il n'y a pas de problème, vous allez vous en sortir. » Non, il y a des cancers, on ne s'en sort pas. Quand on a un cancer du foie au maximum, on ne peut pas s'en sortir. Donc, au lieu de se sentir diminuer, maigrir, parce que le problème, c'est que les maladies, souvent, vous font énormément maigrir, 20, 30, 40 kilos, et on trouve des gens qui font plus de 35 kilos dans un lit de mort, et qui vont mourir tout seul, sans doute dans la nuit, parce que les gens meurent beaucoup la nuit, tout seul dans la nuit, sans sa famille, sans le dernier regard à ses enfants. Non, ça, c'est une mort que je ne veux absolument pas. Et Françoise Hardy, je la comprends. Pour l'instant, elle peut encore effectivement faire à manger, s'occuper d'elle, mais elle doit souffrir le martyr. Quand on sait que c'était une femme formidable, je trouve qu'elle devrait avoir aussi une mort formidable.
Alors j'entends ce que vous dites, il y a une seule chose que je comprends pas, c'est qu'il faut bien mettre ça en place, et donc il faut des lois pour ça. Parce qu'il faut bien qu'un médecin vous administre, en l'occurrence, quelque chose de létal pour que vous puissiez vous endormir tranquillement. Donc il ne peut pas le faire sans une sorte d'autorisation. Donc il faut bien réglementer tout ça.
Oui, alors effectivement, bon, c'est un peu comme la peine de mort. Moi, je ne me souviens pas avoir voté contre la peine de mort. Donc ça, je ne m'en souviens pas. Donc on devrait avoir un référendum national pour avoir une fin de vie. Et puis, c'est comme le don d'organes. Hein,
Un référendum, c'est peut-être beaucoup pour une question comme celle-là, parce que c'est le principe de la démocratie représentative. Vous votez pour une majorité, et dans cette majorité, il y a un programme qu'elle a mis en place, et puis après, elle va appliquer les lois. Je remarque quand même que l'euthanasie n'était pas au programme d'Emmanuel Macron. Hein, c'est important de le préciser.
Bah, c'est bien dommage. Il y a longtemps que ça devrait être... on ne peut pas attendre 2021 pour passer une loi pour l'euthanasie. Il y a longtemps que ça devrait être fait. La mort fait partie de la vie dans tous les cas. Tout le monde meurt un jour. Alors autant mourir dignement. Moi, je suis absolument... Alors j'espère que ce gouvernement va passer cette loi. Mais je l'espère vraiment. Hein. vraiment, vraiment.
Là, en l'occurrence, c'est pas forcément le gouvernement qui la propose, hein. C'est Olivier Falorni. Et il n'est pas certain, d'abord pour des raisons techniques, et puis peut-être aussi pour des raisons de majorité, que cette loi passe. On va marquer une nouvelle pause. Olivier, merci. Qui était en route, a dû trouver, j'imagine, un endroit pour s'arrêter, peut-être, Olivier ?
Oui, ça y est, je suis bien garé, en sécurité.
Alors là, parfait. Parfait, Olivier, on va pouvoir continuer le débat, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Olivier, qui est médecin en hôpital. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs.
Et merci. Voilà,
j'ai profité d'une courte pause dans mon trajet pour réagir quand même. Parce que moi, je suis médecin hospitalier depuis plus de 20 ans et je traite du soin palliatif dans mon service. Et je voudrais quand même éclaircir certains points. Le sondage dont vous parliez, Pascal, qui regroupe plus de 90% des Français pour l'euthanasie, en fait, on leur a posé des questions uniquement sur l'euthanasie et pas du tout une question qui ressemblerait à « Voudriez-vous avoir une fin de vie digne jusqu'à la mort en cas de maladie incurable ou en cas de souffrance morale ou physique ?» Et c'est exactement ce que nous faisons dans le soin palliatif. C'est une escroquerie intellectuelle de dire aux gens qu'ils vont pouvoir mourir dignement. Aucune mort n'est digne. On en voit malheureusement très souvent des gens mourir. Par contre, j'ai eu récemment...
Aucune mort n'est digne, dites-vous ?
Aucune mort n'est digne. La mort est toujours indigne. Par contre, nous, qu'on propose aux patients...
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un mourir, c'est le passage entre la vie et la mort, c'est une phase profondément indigne. Et l'agonie, c'est quelque chose d'absolument affreux à regarder. Donc, c'est pas digne. Par contre, ce qu'on peut proposer aux gens, c'est d'avoir une vie digne jusqu'à la mort. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient, par exemple, pour une demande de sédation terminale, et on a eu l'exemple tout récemment, en une heure de discussion, quand on propose à ce patient on lui dit bien, on n'arrivera jamais à vous soigner, à vous guérir, mais on va vous soigner. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que vous ayez une fin de vie confortable, sans souffrance, ni morale, ni physique. Et ça, on peut le faire avec le médicament actuel, avec les soins actuels. Les gens ne souffrent pas et ils profitent de leur famille jusqu'à ce que les antalgiques soient tellement à un niveau élevé que leur état de conscience s'altère et qu'ils ne peuvent plus communiquer. Mais c'est pas parce qu'ils ne communiquent pas qu'ils ne ressentent pas la présence des gens qu'ils aiment, et jusqu'à la fin de leur vie, je dis bien la vie, ils ont le contact avec les gens qu'ils aiment. Et si vous voyez, on n'est plus dans ce lobby dramatique qui dit vous allez mourir dignement, qu'on entend, ou même des entrefilés dans les journaux pour faire la publicité de ce genre d'association. Nous, on est plutôt dans le soin, c'est-à-dire qu'on propose aux gens une fin de vie, hein, et on parle bien de la vie, qui est digne jusqu'à la mort. Et ça, on le fait tous les jours, on le pratique, les familles sont reconnaissantes, parce que ça peut même se faire en hospitalisation à domicile, parce qu'ils disent que si on avait su que ça existait, on ne serait peut-être pas arrivé à des détresses psychologiques telles qu'on les a rencontrées.
Quand vous dites « on », c'est évidemment l'équipe médicale avec laquelle vous travaillez
toute
à l'hôpital.
Nous
sommes d'accord.
Alors,
c'est pas exactement le... C'est un pas de côté. L'un n'exclut pas l'autre, j'ai envie de dire. On peut accompagner celui qui va partir, comme vous le dites, mais accélérer par...
Pascal, c'est accélérer, je vais mettre les pieds dans le plat, ça s'appelle donner la mort à quelqu'un de façon préméditée, ça s'appelle un assassinat. Hein. Et dans notre contrat moral avec le patient, c'est inimaginable qu'un patient...
Ne dites pas ça, Olivier, ne dites pas ça, parce qu'on a tous des...
C'est inimaginable.
Mais ne dites pas ça, mais Olivier, on a tous des expériences personnelles où tous nous avons été à l'hôpital... beaucoup, avec un parent qui était en fin de vie, qui avait 95 ans, et tous, nous sommes allés parler au médecin, nous avons dit des choses telles qu'elles soient immédiatement comprises, et en quelques heures, celui qui peut-être aurait pu rester encore vivant 4, 5 ou 8 jours... est parti en quelques heures,
non,
vous le savez bien.
Pascal, c'est là le malentendu, c'est que quand... on a des demandes de famille justement dans ces situations-là, c'est que la situation de soins palliatifs est mal gérée. C'est-à-dire que le visage de la maladie est intolérable très souvent pour la famille, mais pas pour le patient lui-même. Quand le patient est bien géré au niveau douleur, au niveau confort moral, on a des drogues maintenant qui permettent d'annihiler complètement le passé et le futur. C'est-à-dire que le patient vit l'instant présent, profite de sa famille, des gens qu'il aime, et au moment, et la consigne qui est donnée aux familles, c'est si vous constatez le moindre signe de souffrance, une crispation, un gémissement, un rictus, etc., vous nous alertez immédiatement. Nous, on passe plus de 15 à 20 fois dans la chambre, hein, à l'équipe, mais il n'est pas impossible qu'on ait pu passer à travers un signe de souffrance. Mmh. On agit, on a de quoi agir.
Donc, au fond, qu'est-ce que vous voulez dire? Que l'euthanasie n'est pas souhaitable parce que le soin palliatif remplit les conditions nécessaires.
Voilà, exactement. Exactement. Pour résumer, quand on nous fait croire qu'il y a 30 ans ou 40 ans que ça existe, ce sont les médecins qui n'ont pas les compétences, et je l'ai vu faire quand j'étais externe il y a une trentaine d'années, hein, à ce moment-là, on a administré le cocktail létal dolosal largactil fénergan. On disait le DLP, et on savait que le patient en avait pour quelques heures à vivre, et puis c'était terminé. Mais ça, c'est de l'assassinat. Hein, et c'était formellement puni par la loi à l'époque, parce qu'il n'y avait pas tout ce lobby dans les médias qui tendait à faire croire que c'était normal. Non, ce n'est pas normal de donner la mort volontairement à quelqu'un. Ce qui est normal, c'est de le soigner. Et c'est notre rôle de médecin. Il est impensable qu'un malade puisse voir rentrer un médecin dans sa chambre à l'hôpital sans savoir si c'est pour le soigner ou pour le faire mourir.
Voilà. Tel que vous dites les choses, j'entends, hein, bien sûr. Mais alors, vous avez parlé d'un cocktail ?
Oui, il y avait un cocktail, le cocktail DLP, c'était le cocktail dolosal, largactil, fénergan. On mélangeait les trois ampoules à des concentrations que j'ai oubliées dans une perfusion. Mmh. Et ce cocktail-là, il était utilisé dans énormément de services où il y avait des situations très tendues, comme les services de réanimation, où les gens avaient des souffrances extraordinaires. Vous parliez tout à l'heure de la maladie de Charcot. J'ai une patiente qui a la maladie de Charcot dans mon service. On a mis en place un protocole qui fait qu'il n'y a aucune demande d'euthanasie de sa part. Et dans ce genre de maladie, justement, où à la fin de la vie, on sait que les gens vont peut-être être tellement essoufflés, avoir tellement de mal à respirer qu'ils ne pourront même plus parler, on prend le temps de faire recueillir les directives anticipées, justement, pour savoir quoi faire. Mais c'est toujours, si vous voulez, on n'administre jamais une dose de quoi que ce soit qui est létale. On augmente progressivement les doses de 30 ou 50% petit à petit, de façon à calmer la douleur, à calmer la confort moral.
J'aimerais vous croire, et je veux bien vous croire,
parce que vous pouvez.
Vous semblez décrire une situation souvent idyllique, déjà d'absence de souffrance.
Non, vous m'assure, Pascal.
Olivier, d'absence de souffrance. D'absence de souffrance. Vous me dites que personne ne souffre aujourd'hui à l'hôpital avec ce qu'il reçoit comme médicament. C'est ça que vous me dites.
Quand la situation est bien gérée, bon,
eh bien, je vous dis qu'hélas, je vous dis qu'hélas, j'ai pas ce sentiment. Des témoignages de très grandes souffrances qui existent. Il y a des souffrances que tu ne peux pas arrêter, manifestement.
Mais je suis bien d'accord, Pascal, mais on ne va pas mettre en place une loi sur l'euthanasie. Pour ça serait un pansement sur une jambe de bois, la jambe de bois étant l'absence de moyens pour développer les soins palliatifs, avec l'absence d'équipes spécialisées dans tous les établissements. Il y a des équipes mobiles de soins palliatifs. C'est ça qu'il faut développer. Comme si on disait on va tuer toutes les personnes en maison de retraite parce qu'on n'a plus assez de place en maison de retraite. Pour faire de la place, on va peut-être faire de l'euthanasie en maison de retraite, pourquoi pas, je le souhaite pas, mais il vaut peut-être mieux construire des maisons de retraite pour traiter dignement justement nos parents âgés jusqu'à la fin de leur vie, plutôt que de penser à abréger la vie des gens qui ont des maladies incurables, parce qu'on a tous des maladies incurables, hein, et un jour ou l'autre, on s'en découvrira une.
Oui, mais vous savez bien ce qu'on appelle une maladie incurable, c'est pour ça que ce relativisme...
C'est pour ça qu'il faut de l'écoute. Quand le patient exprime des souffrances et grâce à ses équipes de soins palliatifs, grâce à ses équipes de suivi des maladies de longue durée en cancérologie, en maladies de longue durée telles que la maladie de Charcot, on peut prendre le temps de discuter avec le patient. On sent le moment justement où il y a une lassitude des soins et les gens veulent très souvent tout arrêter en disant « j'en ai assez, faites-moi partir ». Et avec un dialogue, on peut leur proposer des soins adaptés qui les soulagent. Donc on soigne, on ne guérit pas, mais on soigne jusqu'à la fin de la vie. et on permet à ces gens-là d'avoir une vie digne jusqu'à leur mort.
Eh bien, merci, parce que votre témoignage était vraiment passionnant, et puis c'est quelqu'un qui connaît, qui est sur le terrain, donc c'est passionnant de vous écouter pour cette raison. Merci beaucoup à Olivier. Gabriel Attal s'est exprimé, les mesures semblent fonctionner, il est en train de prendre la parole en direct du Palais de l'Élysée. La situation sanitaire reste extrêmement tendue dans notre pays, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, a dit le porte-parole du gouvernement. Premier signaux encourageants dans les 16 départements concernés par les premières mesures. Les mesures semblent fonctionner et je sais les efforts demandés aux familles. Voilà les grandes, voilà ce qu'il faut retenir de l'intervention de Gabriel Attal pour le moment. Greg Caranoni, à tout de suite pour la suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Nous vous attendons au 3210 sur d'autres sujets. Emmanuel Macron va annoncer la suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration, qui forme aujourd'hui l'élite de la haute fonction publique française. C'était une promesse depuis la mobilisation des Gilets jaunes. Gaspard Ganzer, ancien conseiller de François Hollande et ancien élève de l'ENA dans la même promotion qu'Emmanuel Macron, était l'invité de RTL Midi.
Je crois que l'ENA est devenu un symbole et malheureusement un mauvais symbole. C'est moins la formation en tant que telle qui est en cause que les énarques, une sorte d'ornithorynque français qu'on regarde avec autant d'étonnement que de méfiance. Il faut probablement en changer le nom et changer l'école de fond en comble, et je crois que c'est l'intention du président de la République.
Que pensez-vous de la suppression de l'ENA? Je ne me fais aucune illusion, lance Ignac sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole, les politiques vont créer une autre école d'élite déconnectée. La France est le produit, est le pays qui produit des hauts fonctionnaires qui nous coûtent cher. C'est de la poudre de perlimpinpin pour Frédéric. Partagez-vous ces avis, nous attendons vos appels dès maintenant au 3210. Ce sont des propos qui font réagir sur les réseaux sociaux. Le spécialiste de la chanson française, Fabien Le Club, a créé la polémique dans une vidéo.
Je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des belles ou des filles sublimes? Bon, quand vous regardez Oshie, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Enfin, vous mettez un poster de Oshie dans votre chambre, vous. Mais elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Vartan, même des Sheila à 20 ans, ou des Françoise Hardy, enfin des gens. Il y a plein d'interprètes magnifiques.
Et vous pouvez réagir dès maintenant au 3210, 3210 sur votre téléphone.
Mais il intervient régulièrement en plus, Fabien Lecoeuvre, sur RTL.
Il était avec nous avant Noël.
Mais bien sûr, donc, mais pourquoi il a dit ça?
On peut lui demander.
Bah, on
peut l'appeler. De...
Bah, appelons-le, parce que c'est incroyable de dire une chose. C'est d'abord,
il
c'est
s'est
pas gentil.
Excusé sur le réseau social Twitter.
Bah, d'abord, c'est pas gentil. C'est déplacé. C'est même méchant. Ça peut faire de la peine. C'est pas agréable de dire ça. Charline est là. Bonjour, Charline. Et on parle d'un sujet infiniment plus grave, bien sûr, qu'est l'euthanasie. Vous habitez Cholet. Vous êtes directrice d'un établissement d'aide aux personnes âgées. Donc, vous êtes confrontée, j'ai envie de dire, au quotidien, à des vies qui sont parfois rudes et difficile.
Tout à fait. Des fins de vie parfois rudes et difficiles. Et c'est en ça où je partage le point de vue d'Olivier et en l'importance des soins palliatifs, qui selon moi ne sont pas assez développés ou peut-être encore méconnus en France. À Cholet, on a vraiment la chance d'avoir un service de qualité avec des professionnels formés et qui ont pu accompagner certains de mes résidents sur leur fin de vie avec leurs proches à leur côté. Parfois même dans leur domicile, puisque, si vous voulez, au niveau de la résidence, ils vivent dans leur appartement, c'est un domicile. Donc voilà, c'est quand même offrir, préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au bout pour tout à chacun. Et ça me paraît encore important.
Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que je disais aussi à Olivier, l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que tu peux accompagner, pourquoi pas avec des soins palliatifs, comme vous le dites et comme vous le disiez, Olivier, mais il peut aussi exister une possibilité d'euthanasie dans les derniers jours.
Dans les derniers jours, oui. Alors, à quel moment on définit le dernier jour?
Ça, je ne peux pas le définir. Mais je ne peux pas le définir. Mais la mort, parfois, est trop lente. Parfois, si...
sur 18 jours, en moyenne. Un soin palliatif, il y a une moyenne de 18 jours. Donc, je ne sais pas si ça doit être jugé comme étant lent ou pas lent. En tout cas, c'est 18 jours qui doivent se passer le mieux possible pour le patient, pour le malade, et puis pour ses proches qui sont là à ses côtés, ses proches qui sont là pour l'accompagner, pour communiquer, et pour aussi se préparer au départ. Et je crois que ces 18 jours, à ce stade-là, ils sont très importants.
Mais les dernières heures, est-ce que la personne est consciente ou pas consciente?
Parfois, elle l'est moins, certainement. Et là, je pense encore aux familles et aux proches qui sont aux côtés. Moi, j'ai vécu des expériences de soins palliatifs au niveau de la résidence. Je peux parler de sérénité sur des départs qui se sont passés grâce à des bons soins palliatifs, des soins palliatifs bien gérés, parce qu'on a vu le malade qui est parti sans souffrance. Et quand je dis qu'il y a de la sérénité, il y a de la sérénité pour les proches, pour la famille, qui ont pu dire, qui ont pu faire ce qu'ils avaient envie de faire, les derniers gestes, les derniers
mais
mots.
Entre ces soins palliatifs et l'euthanasie, j'ai parfois l'impression, est-ce que je me trompe, que la frontière est parfois mince.
Alors c'est sûr qu'on parle d'une sédation. D'un côté, c'est une sédation qui est adaptée, qui est là pour soulager la douleur. Et puis d'un autre côté, on est sur une sédation profonde, terminale, et qui est irréversible. Donc là encore, on fait appel à la qualité de la formation des soignants.
Mais là, c'est là que la frontière est mince.
La frontière, elle est mince. Mais moi, je fais confiance aux soignants, je fais confiance, enfin, voilà, par rapport aux expériences qu'on a malheureusement vécues sur la résidence et sur le territoire de Cholet. On a eu des professionnels à chaque fois qui ont su apporter les bons traitements pour soulager totalement une douleur.
Donc vous êtes contre l'euthanasie aussi ?
Je suis plutôt contre l'euthanasie et je suis plus surtout favorable aux
soins palliatifs. Alors, ce qui me frappe dans vos deux témoignages, c'est qu'effectivement, ceux qui connaissent bien les soins palliatifs, et c'est un élément à verser au dossier, semblent considérer que c'est suffisant d'une certaine manière et qu'on évite les risques de l'euthanasie qui peuvent exister. C'est ça, au fond, le fond de votre pensée.
C'est suffisant, en tout cas, c'est suffisant pour soulager la douleur. L'issue, elle est là. Enfin, on est aussi d'accord que l'issue, elle est dans la grande majorité des cas la même. Hein. On arrive vers la mort. Sauf que d'un côté, on ne provoque pas intentionnellement la mort du malade. Et d'un autre, on laisse le processus naturel, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense, d'une mort qui est en effet parfois l'acte irréversible. Mais il y a aussi, enfin, je voulais revenir sur un élément au niveau de l'euthanasie. Alors ça, c'est un point de vue très personnel, mais en tant que professionnel, j'ai l'impression que c'est un échec. Enfin, je l'assimile à un échec. Je ne trouve pas ça concevable qu'aujourd'hui, en France, on ne soit pas en capacité de soulager une douleur physique ou psychologique, et que la seule issue possible soit la mort. Ça, c'est quelque chose qui, personnellement, me touche beaucoup. Et du coup, on arrive à une fatalité, un côté irréversible tellement brutal, parce qu'on n'a pas su faire autrement pour soulager le malade.
Bah merci, là encore, Charline, parce que c'est un témoignage d'une professionnelle sur le terrain. Je retiens que Charline, Olivier, au contact de ceux qui sont en fin de vie et proposent des soins palliatifs, penchent plutôt vers ces soins palliatifs plus que pour l'euthanasie. Et leur discours était vraiment intéressant, évidemment sans esprit de polémique. Nous allons poursuivre encore parce que vous êtes très nombreux à appeler sur ce thème, comme à chaque fois hein, d'ailleurs que nous évoquons l'euthanasie. C'est des sujets graves, on pourra parler de sujets plus légers comme le Paris Saint-Germain tout à l'heure, comme Fabien Lecoeuvre. On le disait avec l'ami Laurent Tessier, et peut-être qu'on va essayer de le joindre, ce spécialiste de la chanson française. Appelez-nous en tout cas au 3210.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. 13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Alex est chauffeur routier en Allemagne. Bonjour Alex.
Bonjour Pascal.
Vous roulez beaucoup et vous avez un papier dans votre portefeuille qui est toujours avec vous.
Exactement, un papier dans mon portefeuille et dans ma cabine de camion qui interdit toute personne de me réanimer en cas d'accident grave. C'est-à-dire que si je perds l'usage de ma tête, de mes jambes, je ne veux pas être un poids pour la société. Je ne veux pas aller dans des centres de réanimation ou de rééducation. Je ne veux pas qu'on me touche, tout simplement. Et c'est un choix. Et je pense que les gens devraient aussi faire respecter ces convictions. Habitant en Allemagne, Pascal, je tiens à vous préciser une chose, c'est que l'État allemand m'autorise. Je suis résident allemand, je suis expatrié. L'Allemagne m'autorise de faire ce genre de document. Et toute personne qui me touchera sera poursuivie en justice. Voilà, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, en 2021, on puisse refuser une mort digne à une personne. L'acharnement thérapeutique est une honte.
J'ai peur, Alex, que, en théorie, ce que vous dites peut être intéressant, mais en pratique, je ne vois pas comment quelqu'un qui arrive après l'accident qui vient de se produire, qui vous voit dans votre cabine camion, et évidemment je ne souhaite pas, je ne vous souhaite pas le mal, bien évidemment, ou que vous soyez éjecté, pourquoi pas, de cette cabine de camion. Je ne vois pas comment il peut évaluer immédiatement la gravité de votre situation sans tenter de vous ranimer. Je ne vois pas ça, et je ne vois pas comment c'est possible.
Garder raison garder, voilà, toujours. C'est-à-dire que ma femme a les mêmes documents qui sont signés par mon médecin. Mmh. Elle a pour consigne de me rejoindre au plus vite. Bien sûr, si c'est un accident, j'ai les deux jambes cassées, bien sûr, on n'en parle pas. Mais si vraiment, je suis dans un état critique...
Mais il ne le sait pas quand il arrive. Quand les pompiers arrivent, personne ne le sait. Dans ce moment-là qui est si particulier...
Quand j'arriverai à l'hôpital, Pascal, il y aura un check, comme tout le monde, comme tout accidenté de la route. À ce moment-là, le pronostic vital est engagé, oui, non. Il est engagé, on ne fait rien. Il n'est pas engagé, on me soigne. C'est aussi simple que ça. Voilà.
Mais vous pouvez avoir un pronostic engagé et puis vous en sortir parfaitement bien 15 jours après ?
Vous avez été dans un centre de... Une fois dans votre vie, dans un centre de réadaptation d'handicapés.
Non,
il n'y a pas à finir.
Non mais là vous avez raison, mais on peut passer par une case gravissime, j'ai envie de dire, sans qu'aucun organe vital ne soit touché définitivement, sans qu'aucune paralysie ne soit définitive non plus, et que dans une période de 15 jours, 3 semaines ou un mois, après un accident quand même extrêmement grave, bah, vous soyez sur pied très rapidement sans séquelles.
Vous avez déjà vu un accident de camion ? On nous retire à la paille. On nous retire à la paille. Quand deux camions se percutent, celui qui percute l'arrière d'un camion, on le retire à la paille. Donc j'ai pas envie de terminer comme ça. Mais bon, c'était juste pour vous dire.
Non, mais j'entends bien. Mais c'est en théorie, je comprends votre vraiment. Mais en pratique, je me dis, ça peut être peut-être plus compliqué.
En pratique, bien sûr, les pompiers ne seront pas poursuivis. Par contre, un médecin qui s'acharnera sur moi sera systématiquement poursuivi au tribunal de Trier. J'habite en Allemagne, c'est un de mes droits. L'Allemagne autorise ce genre de pratique. L'acharnement thérapeutique peut être poursuivi auprès d'un tribunal. Et je pense que les gens devraient tous avoir ce genre de document parce que, bon, je parle des accidentés.
C'est un document officiel ou c'est une lettre manuscrite ?
Un document officiel, c'est un peu comme un testament, si vous préférez, qui est contresigné par mon médecin, qui m'a déclaré sans esprit. Et qui a contresigné, et je tampon par... voilà. C'est une façon de... Et je tiens à préciser que je suis catholique, et ça ne va pas à l'encontre de mes convictions.
Voilà. Bah écoutez, Alex, c'est intéressant. En plus, vous êtes relativement jeune, hein, vous avez 44 ans. C'est évidemment pas l'âge auquel on pense à la mort, mais vous avez, c'est responsable ce que vous avez fait, et puis vous avez envie de...
Commencé la route à 18 ans, je continue à rouler, ça fait 26 ans. 26 ans que je vois des accidentés, 26 ans que je vois des choses monstrueuses sur la route. Et je ne veux pas finir comme ça.
Donc, effectivement, c'est cette expérience-là qui vous a poussé à prendre cette décision. Merci en tout cas, vous avez envie de contrôler votre vie, et en l'occurrence aussi possiblement votre mort, et ça s'entend.
C'est exactement ça, c'est avoir le contrôle jusqu'au dernier moment, et je refuse qu'une personne ait le contrôle sur ma vie. Voilà. Vous avez bien fini ma
mais pensée. Non, mais ça va avec la profession que vous faites, d'ailleurs, parce que les chauffeurs, il y a une chose qui est très très importante, c'est que vous êtes libre. Un chauffeur, il est libre. Alors évidemment, il est libre, il a un patron, bien évidemment, et on n'est jamais complètement libre, mais dans l'exercice au quotidien de votre profession, il y a une forme de liberté qu'on retrouve chez un chauffeur taxi, chez un chauffeur de camion, et de ça, qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans n'importe quel employé d'une entreprise plus classique, disons-le.
Oui. Et ma liberté, pour moi, est primordiale. Donc,
ce que j'avais cru comprendre.
Je veux avoir le contrôle jusqu'à la fin.
Mais bien sûr.
Pascal, je vous remercie beaucoup.
Bah non, c'est moi qui vous remercie. Merci, Alex. C'est toujours intéressant, Greg, d'échanger avec les auditeurs et d'essayer, on n'y arrive pas toujours, à percer un peu une psychologie. Mais on ne fait pas n'importe quel job par hasard. Effectivement, quand tu es chauffeur de camion, c'est une forme de liberté que tu vas chercher. Nous sommes d'accord. Quand tu es prof aussi, j'ai compris ça pas récemment. Un prof, il a une très grande liberté. Il fait ce qu'il veut dans sa classe, ce qu'il veut. Et s'il veut changer le programme, il peut, il a une très grande liberté.
Et un journaliste, présentateur des auditeurs ont la parole notamment.
Chez les journalistes, évidemment, que vous retrouvez une forme de liberté. La hiérarchie, elle pèse, bien sûr, dans le milieu journalistique, mais elle pèse moins que dans d'autres milieux. Elle pèse moins, par exemple, qu'à l'armée. C'est évident. Elle pèse moins que dans le milieu politique, où la hiérarchie est très fixe. Quand vous voyez arriver les ministres à RTL et qui sont avec les personnels avec qui ils travaillent, vous voyez, vous devinez combien la hiérarchie, elle est en place beaucoup plus forte que dans d'autres métiers.
Pourtant, si je vous demande de faire une pause, vous vous soumettez ?
Je me soumets.
Alors, on y va.
À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. 13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard, au 3210. La diplomatie européenne est-elle faible? Vous avez peut-être vu cette séquence vidéo de quelques secondes. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, n'a pas eu droit à une chaise face au président turc Recep Tayyip Erdogan. Trois officiels et seulement deux fauteuils pour deux hommes, le président du Conseil européen Charles Michel et le président turc. On voit Ursula von der Leyen dépitée. Et s'asseoir sur un canapé un peu plus loin, le hashtag SofaGate monte depuis sur les réseaux sociaux. Partout à Tix. Le retour au cinéma d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, le prochain film que prépare Guillaume Canet. Et dans le casting, un certain joueur de football, Zlatan Ibrahimovic, il incarnera un redoutable guerrier nommé Antivirus. Quel serait votre prénom gaulois, cher Pascal ?
Oh, je sais que vous allez trouver tout seul.
Polémix.
Bah tiens, Polémix, il y a Loïc Bruyou qui nous écoute et qui me dit « Je suis désolé de vous contredire, mais dans sa classe, un enseignant ne peut pas faire ce qu'il veut, comme vous venez de le dire. Il doit enseigner les programmes de l'éducation nationale, il ne peut pas se soustraire au programme. » Alors, il a un peu raison, j'ai un peu exagéré, mais par exemple, ce qui me frappe actuellement, c'est qu'un prof n'est pas obligé d'avoir ses élèves par Internet, par Zoom ou par je ne sais quoi. Il est obligé d'assurer une continuité pédagogique et s'il veut faire par exemple un podcast, ben, il peut le faire. Et s'il veut faire un lien en direct et un zoom en direct, il peut le faire. Et s'il veut ne pas avoir ses élèves du tout, sauf par mail, il peut le faire également. Donc c'est une forme de très grande liberté qui est donnée, en l'occurrence, à l'enseignement et à l'éducation nationale. Christine est là. Bonjour Christine.
Bonjour Monsieur Pro.
Nous sommes toujours sur ce thème de l'euthanasie.
Oui, pour lequel je suis tout à fait pour. Parce que j'ai vu ma grand-mère partir à un ulcère, terminée comme un légume pendant plus de 20 ans. Elle ne m'a pas reconnue la fois où j'étais allé la voir. Aujourd'hui, j'ai ma maman qui est atteinte d'une sclérose en plaques progressive, donc une maladie qui attaque les nerfs du corps, de tous les yeux, le bout des doigts et ainsi de suite, qui a déjà abordé le sujet avec nous, plus d'une fois avec moi. Parce que je me retrouve souvent seul avec elle, parce qu'actuellement, je vais sur un site qui est dans les Pays-Bas qui me permet d'avoir du cannabis pour la soulager au niveau des douleurs qu'elle a continuellement. Aujourd'hui, ma maman, je la vois en déambulateur toute la journée. Quand on va se promener en ville ou quelque part, on est obligé de prendre le fauteuil roulant. Donc moi, c'est un sujet sur lequel je suis pour. Je suis pour l'euthanasie. Et comme l'auditeur précédent, le camionneur, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que actuellement, pour moi, j'ai perdu le nom pour l'aide à la personne, le suicide à la personne en France. Je trouve que c'est un effondrement parce que on leur enlève les nutriments, on les endort comme dans une sorte de coma. Pour moi, c'est pas une mort digne et noble.
Votre maman aujourd'hui, elle n'est pas soulagée de la douleur?
Non, parce que actuellement on lui donne par exemple un médicament qui s'appelle le Valium, qui attaque le cerveau. C'est un médicament qui est très très fort. Tous les traitements qu'elle a actuellement ne la soulagent pas. Donc oui, pour moi, c'est quelque chose qu'elle envisagera d'ici 5 ans, comme j'ai dit à votre collègue.
Mais elle n'est pas hospitalisée, votre maman?
Non, mais elle suit un traitement. Toutes les semaines, elle va à l'hôpital pour suivre un traitement. Et un jour, ça, malheureusement, je n'ai pas envie de la voir partir parce que c'est ma maman. C'est elle qui m'a élevé, c'est elle qui m'a nourri, c'est elle qui m'a appris la vie. Je n'ai pas envie, mais ça viendra, malheureusement.
Alors, ça contredit un peu, même si ce n'est pas le même moment avec Olivier tout à l'heure, qui est médecin. Je lui disais que j'avais des témoignages de personnes en fin de vie qui souffrent. Donc votre mère, elle n'est pas en fin de vie, mais elle est en situation de souffrance et manifestement, la médecine ne peut pas répondre à cette souffrance.
Non,
vous me dites
qu'elle veut,
que vous allez chercher du cannabis aux Pays-Bas. Donc, est-ce que vous, peut-être, pourquoi, qu'est-ce qu'on répond à votre mère lorsqu'elle se plaint de ses souffrances et qu'est-ce que répondent le personnel hospitalier?
Bah, qu'ils feront de leur mieux par rapport aux traitements qui peuvent être donnés, ainsi de suite. Mais c'est, actuellement, il n'y a aucun traitement pour combattre la sclérose en plaques. Aujourd'hui, il existe trois formes de sclérose en plaques. Une sclérose en plaques qui laisse des séquelles, une autre qui intervient et qui vous gêne sur le moment, mais qui disparaît du jour au lendemain. Et il y a la progressive qui, jusqu'à la fin de vos jours, bah, un jour, vous finissez en légumes, dans un fauteuil roulant.
Écoutez, Christine, bon courage pour vous, pour votre mère.
Et j'avais une question pour vous, Monsieur Pro.
Je vous en prie.
Je vous ai entendu dire tout à l'heure à la radio qu'actuellement, il y avait 80% des Français qui étaient pour contre 10%. Donc, ce qui représentait 2 personnes sur 3. Mais actuellement, en France, nous sommes à peu près, si je me souviens bien des chiffres, 68 millions ou 69 millions de Français. Ça représente combien de Français, vos chiffres? Si vous avez les chiffres, bien entendu. C'est ça qui m'intéresse.
J'imagine que c'est 80% ou 90% des gens qui ont plus de 18 ans. Alors, je ne sais pas en France combien il y a de gens qui ont plus de 18 ans. Les sondages ont dû être faits sur ceux qui sont majeurs. Mais au-delà des chiffres, ce qui est important, c'est l'écrasante majorité. Alors que sur les sujets sociétaux, c'est généralement plus fragmenté. Sur le mariage pour tous, ça l'était. Sur l'avortement, ça l'était. Donc là, a priori, toutes les études qui remontent, c'est une très, très, très large majorité de Français majeurs sont favorables à l'euthanasie. Mais ce qui est plutôt compréhensible, parce que l'État n'obligera personne à passer par la case euthanasie. Donc ceux qui sont contre, tu ne leur enlèves rien, aucun droit. Mais en revanche, ceux qui sont pour, tu leur permets d'accéder à quelque chose auquel ils n'ont pas le droit aujourd'hui.
Bien sûr, mais justement, c'est pour, par exemple, sans parler du cas de ma maman, quelqu'un qui est atteint d'un cancer de phase terminale et qui ne pourra pas être sauvé malheureusement, justement, ça peut lui permettre justement de partir noblement.
Mais c'est tout le débat.
J'espère parce que le gouvernement va nous écouter, parce que ce serait une grande amélioration pour ces gens qui sont en très grande souffrance. Et j'espère que ça va passer.
C'est tout le débat. Je pense que ça va être compliqué, effectivement, que cette loi puisse passer. Alors, restez avec nous, Christine, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans votre témoignage et peut-être que Pascal va pouvoir essayer d'entamer un dialogue avec vous. Bonjour, Pascal, vous êtes accompagnant en fin de vie.
Bonjour.
Vous venez d'écouter Christine.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, je suis accompagnant de fin de vie. Bon, Le terme s'appelle comme ça. Maintenant, quand j'accompagne quelqu'un, je suis plus dans la vie que dans la mort. Et souvent, on peut me confondre des fois un peu avec l'aumônier. Je ne suis pas aumônier, bien que j'ai des convictions religieuses. Mais je comprends en fait la souffrance de ce monsieur. Et aujourd'hui, on a eu des réponses. On a eu surtout les réponses d'Olivier. Olivier aussi, de la responsable d'EHPAD, où là, aujourd'hui, on a les moyens, normalement, d'avoir une fin de vie plus douce en tout cas. Les soins palliatifs ne sont pas assez développés. Il y a eu des réductions aussi des soins palliatifs. Il faut absolument que ça soit le contraire et que les médecins fassent davantage avec les soins palliatifs. Les soins palliatifs n'existent par exemple qu'avec des accompagnants comme moi. Et je fais partie d'une association, c'est très cadré. Et aujourd'hui, c'est la souffrance du malade et aussi des accompagnants de la famille. Donc, je comprends la détresse de ce monsieur et il faut qu'il en parle autour de lui. C'est très important d'en parler et en même temps, bien d'écouter aussi sa maman. Sa maman, qu'est-ce qu'elle décide vraiment ? Qu'est-ce qu'elle veut, sa maman ? Et aujourd'hui, on a quand même moyen, avec les directives anticipées, de dire « je veux ma fin de vie de telle façon ». Et ça, on vous le dit tout le temps, il faut développer les directives anticipées et désigner la personne de confiance.
Je suis d'accord avec vous, monsieur. Mais actuellement, il y a des ratés.
Oui.
Il y a des ratés dans ces soins palliatifs. C'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des ratés. Et justement, sans parler de ma maman, comme je disais à monsieur Prou, quelqu'un qui est atteint d'un cancer de phase terminale. Justement, ça pourrait lui permettre de pouvoir partir noblement et ne plus avoir cette souffrance.
Oui, mais ça existe déjà. Simplement, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque ? C'est de parler, en fait. C'est de dire, aujourd'hui, il y a ça qui ne va pas. Donc, je vous invite vraiment à rencontrer les médecins qui s'occupent de votre maman, d'en parler, de dire, maman, mais qu'est-ce que tu as envie, maman ? Aujourd'hui, comment ça va ? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi ? Et quand je rentre dans une chambre aujourd'hui, je dis, comment vous allez, madame, aujourd'hui ? Ça va ? Oui, j'ai mal. Vous l'avez dit que vous aviez mal ? Non ? Vous allez en parler au médecin. Et à partir de là, c'est vous.
C'est ce qu'elle fait tout le temps quand elle va chez les médecins. Et aujourd'hui, on lui met des traitements de chevaux, comme le Valium, qui est un médicament qui est extrêmement fort et qui attaque le système cérébral.
Oui, alors je ne me permettrai pas, si vous voulez, d'avoir un avis sur le traitement. Certainement que des cas sont différents l'un que l'autre. Peut-être qu'Olivier pourrait nous éclairer davantage là-dessus.
Et Olivier, malheureusement, il est parti. Pascal et Christiane, on a compris effectivement les positions de Pascal qui est davantage sur le soin palliatif et Christiane qui s'inquiète pour sa mère. C'est un sujet très grave, je l'ai dit. Ça fait une heure que nous en parlons avec beaucoup de gravité, forcément. On va marquer une pause. On va écouter le flash. Et puis, peut-être qu'on conclura avec Christiane et Pascal sur ce sujet. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est 14h. Le flash avec Olivier Bois.
Et deux ecclésiastiques placés en garde à vue, conséquence de cette messe qui s'est tenue samedi dernier avec trop de monde et sans gestes barrières. C'était dans le 9e arrondissement de Paris. Les images avaient été diffusées. Le parquet de Paris, dans la foulée, avait ouvert une enquête. Le compte-rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'exprime. Sur l'épidémie, l'incidence reste forte en France. Autour de 400 cas pour 100 000 habitants. Le nombre d'hospitalisations et d'admissions dans les services de réanimation continue à augmenter. La situation, a-t-il dit, est particulièrement préoccupante en Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, Gabriel Attal indique qu'il y a des signaux encourageants dans les 16 départements à avoir été en partie reconfinés en premier il y a 3 semaines. Sachez par ailleurs que d'ici ce soir, la France aura passé la barre des 10 millions de personnes à avoir reçu au moins une première injection de vaccin. Emmanuel Macron veut supprimer l'ENA. Il va l'annoncer cet après-midi dans le cadre d'un plan plus global de réforme de la formation des hauts fonctionnaires. Il y aurait toujours une école pour la haute fonction publique, mais avec un nouveau nom et l'idée que les futurs hauts fonctionnaires aient plus de temps de formation près du terrain ou connaissent des expériences dans le privé. Et puis on connaît le casting de stars du prochain Astérix et Obélix. Guillaume Canet en Astérix, Gilles Lelouch en Obélix. Pour le reste, on retrouvera Vincent Cassel en César, Marion Cotillard en Cléopâtre et Zlatan Ibrahimovic campera un personnage de combattant qui s'appellera Antivirus. Astérix et l'Empire du Milieu, c'est le nom du film. Le tournage va commencer dans quelques jours. Le quintet à Deauville, à l'instant, l'arrivée provisoire. Le 9, le 13, le 5, le 10 et le 6.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Merci Olivier Bois. Et donc on était avec Christiane, dont la mère est atteinte d'une sclérose en plaques. Et c'est une maladie évolutive et elle s'inquiète évidemment de sa fin de vie, même si elle n'est pas programmée aujourd'hui ou demain. C'est plus dans 5 ans, disiez-vous Christiane. Et puis nous sommes également avec Pascal qui accompagne précisément les fins de vie, mais qui préfère les soins palliatifs à une euthanasie brutale. Le dernier mot pour vous, peut-être, Christiane ?
comment dire, ma maman, je l'ai vu se battre toute sa vie pour nous offrir une éducation, nous offrir à manger sur la table, avec mon père pareil. Et aujourd'hui, la voir en fauteuil roulant et ainsi de suite, pour moi, au bout d'un moment, elle va craquer. Je sais qu'elle va craquer et qu'elle va justement réaborder ce sujet qu'elle a déjà abordé plus d'une fois avec nous. Et actuellement, les soins palliatifs qui sont actuellement en France ne sont pas efficaces pour moi. J'ai vu ma grand-mère partir comme un légume pendant 20 ans. 20 ans, elle ne m'a pas reconnue quand je suis allé la voir avec ma sœur.
C'est ce que vous disiez effectivement tout à l'heure, Christine. Merci vraiment, vraiment merci beaucoup. Merci de ce témoignage qui est extrêmement émouvant. Merci également à Pascal. Et nous allons...
Est-ce que je peux dire quelque chose ?
Je vous en prie, Pascal.
Je voulais dire surtout à Christine qu'il faut aussi qu'il se fasse aider, peut-être qu'il rencontre aussi des accompagnants, qu'il en parle davantage avec d'autres. Peut-être qu'aujourd'hui, RTL lui a permis de parler en tout cas de sa souffrance à lui, parce que souvent, c'est notre propre souffrance qu'on voit à l'intérieur des autres, enfin par rapport aux autres, en se disant « voilà, moi je ne supporte pas ça ». Alors que peut-être le malade, moi quand je rencontre des gens aujourd'hui, ils ont envie de se battre. Vous en avez qui vous disent au début, je ne vais pas me soigner, et vous revenez 8 jours après, ils ont une pêche pas possible et ils ont envie d'aller au bout. Maintenant, je comprends Christine, je comprends sa souffrance. Profitez de chaque moment avec elle, parlez, dites-vous tout ce que vous avez à vous dire, ce qu'elle a envie, et c'est adoucir aussi... sa fin de vie.
Merci beaucoup, Pascal. Et dans une seconde, nous changerons complètement de sujet.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Un sujet infiniment plus léger, pourquoi pas dérisoire, mais ça peut nous amuser de temps en temps. Vous connaissez Fabien Lecoeuvre, il intervient régulièrement sur les plateaux de télévision et de radio. Je l'aime bien, Fabien Lecoeuvre, et je trouve qu'il a du talent même pour parler de ceux qui ne sont plus là, puisqu'il est biographe, notamment de Claude François, de Michel Sardou, qui évidemment est bien là, lui, mais vous avez écrit beaucoup de livres. Bonjour Fabien Lecoeuvre.
Bonjour Pascal.
Vous êtes ami avec toute la chanson française, et vraiment je vous reçois avec beaucoup de plaisir, parce que vous êtes très intéressant à écouter, mais là j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Fabien Lecoeuvre, ce que ça m'a surpris de vous d'ailleurs. Alors on va écouter ce que vous avez dit. Vous parlez d'une chanteuse qui s'appelle Oshi, je suis pas sûr que tout le monde la connaisse.
Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union.
Alors, Oshi, qui s'appelle en fait Mathilde Gerner, elle est née le 14 septembre 1996 à Versailles. Elle a commencé le piano à l'âge de 6 ans, la guitare à 15 ans, et elle a écrit ses premières chansons. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, elle fait un malheur dans la musique avec le groupe amateur aussi au départ, hein, ses premiers pas, qui s'appelait Transi Story. Et puis, aujourd'hui, c'est une vedette. Elle est passionnée par la culture japonaise et elle a donc choisi comme nom de scène Oshi Ide. Echo, puis simplement Oshi. Alors vous l'avez peut-être vu à la télévision, effectivement elle est coiffée, j'ai envie de dire, selon la tradition japonaise, et puis parfois il y a des habits qui ressemblent à celui d'un kimono. Alors voilà ce que vous avez dit d'elle, Fabien Lecoeuvre.
Je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des belles ou des filles sublimes? Bon, quand vous regardez Oshi par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous. Mais elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Vartan, même des Sheila à 20 ans, ou des Françoise Hardy, enfin des gens. Il y a plein d'interprètes magnifiques.
Fabien Lecoeuvre.
Oui.
Mais ça vous ressemble pas du tout. D'abord, c'est pas gentil. C'est non. Pas vrai, en plus, parce que franchement, Oshi, je partage pas du tout votre avis sur le rapport.
Mais vous avez raison, mais il faut que je vous explique, il faut recontextualiser les choses. Parce qu'en fait, je suis parti, on m'interrogeait sur un article du Monde, qui est sorti dans Le Monde il y a quelques semaines, qui s'appelle « La beauté influence-t-elle la réussite ?» Bon. À cela, j'ai répondu oui, mais pas que. Puisque y a énormément de contre-exemples, des gens qui ont du talent, certains avaient en plus la beauté, mais d'autres ne l'avaient pas forcément, et réussissaient quand même. Bon, que ce soit les Piaf, les Aznavour, enfin, il y en a, et les Gainsbourg, et j'en passe. Bon. Et puis après, il y a un autre, où j'ai réagi sur un autre article qui était dans l'Obs, qui disait « Faut-il être sexy aujourd'hui pour réussir ?» J'ai encore dit oui, mais pas que. Il y a plein de gens qui ne sont pas sexy, voilà. Donc c'était un débat sur le hier et le aujourd'hui dans la chanson. On me comparait d'ailleurs à ce moment-là, j'expliquais qu'aujourd'hui, il y a très très peu d'artistes stars, on va dire, qui ne sont que des interprètes.
Enfin là, vous tapez en touche, pardonnez-moi Fabien, vous dites, est-ce que vous voyez un poster de Hoshi dans votre chambre?
Oui, mais j'expliquais entre...
Non mais vous avez dit une bêtise, ça peut nous arriver à tous, simplement, attendez, j'ai dit une bêtise et je suis désolé cela.
Mais évidemment, je reconnais que j'ai été maladroit.
Mais c'est pas maladroit, les gens disent toujours maladroit.
Bon qualificatif.
Mais c'est
un dérapage.
Voilà, ça c'est mieux.
C'est un dérapage. Écoutez, vous savez...
Mais pourquoi c'est étrange de votre part? En plus, moi je vous connais, c'est très étrange ce que vous avez dit.
Écoutez, oui, mais j'étais dans une explication, mais je me suis pris les pieds dans le tapis dans l'explication. Voilà, bon. C'est aussi simple que
Et vous avez réussi à parler d'Aznavour à l'instant. Je me souviens, Aznavour, il a raconté en fin de carrière précisément tout le monde lui avait dit « Tu réussiras pas parce que t'es petit, t'es laid, t'es machin, etc. » Bon, et Gainsbourg, pareil, vous avez parlé d'Edith Piaf. Franchement, Brel, c'est pas un premier prix de beauté.
Mon erreur, Pascal, c'est d'avoir pris des exemples d'aujourd'hui. Parce que d'abord, mais je sais pas, vous savez, des fois, dans des explications, ça peut arriver, on peut déraper, mais on ne peut pas mettre en cause, de vous à moi, Pascal, on ne peut pas mettre en cause le sérieux de mon travail.
Ah ben évidemment, mais c'est pour ça que ça m'a étonné.
Les livres que j'ai écrits en témoignent d'ailleurs, vous savez, on ne peut pas écrire, très sincèrement, on ne peut pas écrire sur quelqu'un si on ne l'aime pas.
Mais je suis bien. Connais que ça m'a étonné.
Non mais c'est surtout qu'il y a une espèce de haine maintenant autour de ça, parce que tout ça est instrumentalisé, vous imaginez.
C'est-à-dire.
Il y a des grands spécialistes aujourd'hui sur les réseaux qui instrumentalisent et qui me donnent tous les défauts de la Terre.
Ah, là, vous avez mis. Bon. Vous êtes marrant. Là, c'est le règle du jeu. Si moi je balance un truc comme ça, je sais ce que je vais prendre. Hein.
Voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas nuancé les choses.
Bon,
voilà,
écoutez, vous mettez une petite vidéo sur Twitter, vous dites qu'effectivement, ce que vous avez dit n'est pas à dire, que vous ne le pensiez pas, surtout, que vous le pensiez
pas.
Non,
mais je ne le pense pas, évidemment. Bon. Enfin, écoutez, quand je dis que les chanteurs, dans les années 70 ou 80, il y avait moins de chanteurs avec des boucles taillées façon fin 18e, bon, c'est maladroit si je donne des noms, évidemment. Mais qui peut me jeter la pierre, qui n'a pas un jour dérapé dans sa carrière? Bon, ça peut arriver, franchement, ça peut arriver. Il n'y a pas de conséquences fâcheuses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Envoyez un bouquet de fleurs à Hoshi. Et puis,
je lui tellement voit surtout un poster.
Voilà, que vous mettrez dans votre chambre.
Je lui promets que je vais mettre un poster.
Ah ben voilà, répondez par l'humour à cela, vous avez parfaitement raison. Merci Fabien Lecoeuvre.
Je vous en prie.
14h12 sur RTL.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Quel monde quand même que ces réseaux sociaux, Greg Caranoni.
Vous êtes avocat aussi et conseiller alors. Devriez mettre une vidéo sur Twitter, vous devriez lui envoyer un bouquet de fleurs.
Je fais attention moi, parce que franchement, j'essaye de pas dire des bêtises pareilles, mais il a raison Fabien Lecoeuvre, on n'est jamais à l'abri et personne n'est à l'abri de parfois dire une bêtise, ça peut tous nous arriver. Vous avez fait l'ENA, Greg Caranoni ?
Bien sûr.
Promotion Christian Olivier.
Exactement. Oui, on a fait la même.
Avec c'était le samedi soir.
Oui,
c'était
tout à fait.
On a fait l'ENA le samedi soir.
Que de bons souvenirs.
Magnifique. Alors, l'ENA, faut-il supprimer l'ENA? On est avec François. Bonjour François. Non, il est parti. Alors, on est avec Gilles. Gilles.
Bonjour Pascal.
Ah Gilles, bonjour. Je reconnais votre voix. Là, sens que je vais passer un bon moment quand je reconnais cette voix.
Eh bien, écoutez, j'en suis bien aise. Donc, moi, je pense que le problème de l'ENA, le péché originel de l'ENA, en fait, c'est d'en avoir fait une école. Alors que ça aurait dû être un centre de formation professionnelle pour adultes, comme le CNAM. En gros, dans les ingénieurs, vous avez les formations traditionnelles et vous avez le CNAM. Le CNAM se détache. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas accéder au CNAM tant qu'on n'a pas travaillé. Ça veut dire que pour être prof au CNAM, il faut être infiniment plus brillant que pour être prof tout court, parce qu'on vous soumet la contradiction. Et c'est, je pense, ce qui fait le problème de la formation à l'ENA. Quand vous êtes à l'école, imaginons, vous commencez avant votre carrière, vous allez dans une école de journaliste. Et ensuite, 5 ans après, vous exercez depuis 5 ans, vous faites de nouveau une école de journaliste. Y a des trucs que vous avalerez pas la deuxième fois.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire?
Ce que je veux dire par là, c'est que l'ENA devrait pas être une école, l'ENA devrait être un truc à plus 5 ans, plus 7 ans d'expérience professionnelle. C'est-à-dire d'abord on travaille et ensuite
peut-être
on fait
l'ENA. Mais oui, il faut bien former, vous êtes marrant, il faut bien former, c'est pas choquant en soi
mais attendez,
de former.
C'est pas contradictoire, c'est pas contradictoire.
Mais alors vous faites, donc vous allez dans la vie professionnelle pendant 5 ou 7 ans et après vous allez vous reformer à l'UN.
Oui, absolument.
Donc vous avez 27, 28 ans, divers. Vous avez peut-être deux enfants et c'est pratique votre truc.
D'horizons divers, c'est-à-dire aussi bien des ingénieurs que des créatifs, que des commerciaux.
Et là vous faites comment ?
Pour le moment vous avez un moule unique. Vous savez, les gens qui font le CNAM, ils le font, donc c'est possible.
Ouais.
Vous avez l'air de trouver que c'est impossible, mais
oui,
s'il y a des profs qui font... Alors, moi, je suggère, je fais un appel à l'antenne, s'il y a des profs qui forment des apprentis et des profs qui forment des élèves qui sont à l'école, je vous assure que les apprentis sont moins faciles parce qu'ils posent des questions. Et surtout, quand vous vous trompez, ils vous mettent le nez dans le caca du chat. Or là, vous parlez à des gens qui n'ont aucune expérience, vous leur faites avaler n'importe quoi. Quand vous leur dites, écoutez, nous, on est les meilleurs profs, donc vous êtes les meilleurs élèves. Je me souviens, il y a quelques mois, il y avait une élève qui disait, ah, nous, on n'a pas besoin d'examen, nos profs sont les meilleurs. Sous-entendu, si mon prof est le meilleur, moi, je suis la meilleure. Non, ça marche pas comme ça. Et ce qui manque surtout, c'est la contradiction. Vous avez un profil unique, c'est-à-dire en gros un moule. Vous prenez une assemblée d'ENA, vous avez une pensée. C'est pour ça que ça merde, parce qu'en fait, il devrait y avoir plusieurs pensées. Parce que résoudre un problème, c'est trouver des solutions qui sont parfois pas dans le manuel. Et là, on a affaire à des gens. Et le deuxième point, si vous me permettez, c'est que ce qui réconciliera l'ENA et les énarques avec les Français, c'est qu'on ça donne pas l'impression que les énarques sont à l'abri de toute avanie. Parce que quand ça donne l'impression en fait qu'une fois que vous avez passé votre diplôme, vous pouvez plus, en gros, vous risquez plus aucun emmerde. On vous condamne jamais. Vous êtes jugé par vos pairs qui par ailleurs sont pas fous, se disent si lui aujourd'hui est sur la sellette, peut-être demain ça sera moi. Donc je le défends même si j'en pense pas un mot. Mais ça donne une impression d'impunité. Alors vous ajoutez ça à l'arrogance. Clairement, vous avez le tableau. Hein. Et changer le nom, ça ne changera pas grand-chose.
Bon écoutez, merci Gilles de cet avis tranché. Manifestement, vous n'avez pas fait l'ENA, vous.
Non, mais j'ai fait des formations en alternance 2. Et j'ai eu l'occasion de voir, on était mélangés entre des gens qui avaient déjà travaillé et des gens qui n'avaient jamais travaillé. Les questions les plus pertinentes ne venaient pas nécessairement des gens qui n'avaient jamais travaillé. Parce qu'ils n'avaient pas d'esprit contradictoire. Donc, il y a eu quelques profs qui ont passé des mauvais moments quand on leur dit « Mais attendez, monsieur, c'est bien gentil ce que vous dites, mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. » Et là, le prof, il faut qu'il soit bon. Là, je ne suis pas certain. Peut-être que les profs ne sont pas si bons que ça.
Je ne sais pas si j'aurais aimé vous avoir comme élève.
J'étais assez turbulent, j'avoue. Mes profs m'aimaient bien, contrairement à ce que vous pouvez croire. Mes profs
mais arrêtez,
bien,
je ne fais pas de paranoïa. Moi, je vous dis que quand vous vous appelez, j'adore. On peut passer un bon moment avec vous. Donc, vous avez un avis tranché, c'est sympa de vous écouter.
J'aimerais bien avoir l'avis des autres auditeurs et surtout des gens qui forment aussi bien des gens en académique que des gens en alternance. Et je pense qu'ils vous diront à peu près la même chose que moi. Bon. Si vous voulez avoir un peu
restez
de contradiction.
Ouais. Restez avec nous et on vous parle encore dans quelques secondes. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, François, on a deux François pour tout vous dire. François Deauville, bonjour François.
Bonjour à tous. Bonjour.
Et on a un François à Orbeck également qui attend.
Oui, alors c'est pour l'ENA. Moi, je trouve que c'est bien, il faut supprimer l'ENA, mais il ne faut pas essayer de refaire un petit truc, vous savez, ils vont changer le nom, je pense, parce que là, il y a un paquet qui sont recasés quand ils sont battus aux élections dans cela. Donc, il faut réformer l'État, mais il faut la réformer complètement. Il faut mettre des gens du privé. Et pourquoi ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un...
Si c'est des gens des privés, c'est plus des gens de l'État. C'est ça que je ne comprends pas. Si vous mettez des gens du privé dans l'État, ils deviennent... ils ne sont plus dans le privé, ils deviennent dans le public.
Oui, mais après, ils repartent dans le privé, tandis qu'on les traîne toute la vie. C'est-à-dire, Madame Royal, vous avez vu, elle se trouve un poste sur un autre poste, sur un autre poste, sur un autre poste, et on la voit avec du nouveau poste.
L'Antarctique. Non, mais ça, c'est des politiques. Tous les gens qui sortent de l'ENA ne font pas de la politique. Moi, ce qui m'ennuie dans ce dialogue, faut bien former des gens pour s'occuper de l'État avec une compétence administrative. Donc, vous les formez où ?
Bon, mais on a un mammouth partout. Le mammouth, regardez, vous avez le système, un système de intercom, commune, département, métropole. Tout est géré en double et en triple.
Non, mais ça n'a pas de rapport avec notre discussion.
Si, parce que c'est toujours les mêmes. Vous verrez que c'est toujours les mêmes personnes. Ils sont présidents de région, ils sont présidents de métropole.
Mais ça, c'est des fonctions politiques, personnes. François.
Comment ?
Ça, c'est des fonctions politiques.
Eh bien, l'ENA, ça veut dire École nationale d'administration. C'est-à-dire que pourquoi regarder un maire de commune, il n'est pas spécialement de la fonction publique. Eh bien, il faut faire pareil. Si vous voulez qu'un État nous coûte moins cher, parce que là, avec la décentralisation, ça nous coûte 100 milliards de plus que l'Allemagne, vous rendez compte.
Mais j'entends bien, mais vous formez. Est-ce que vous acceptez l'idée qu'il faut former des hauts fonctionnaires dans ce pays pour s'occuper, par exemple, des finances publiques et de.
Qu'est-ce qu'il faut qu'on.
Quand on voit le résultat.
Quand vous avez un bac plus 10, vous n'en avez pas assez.
Bon. Mais il y a une spécificité quand même de la haute fonction publique.
Vous êtes rempli de conseils tout autour de vous, vous avez des conseillers tout autour de vous, vous signez dans le bas de la page.
Bon, alors, vous savez, donc faut, à votre avis, il ne faut pas d'école, quoi. Ça ne sert à rien.
Ah si, si. Non mais écoutez, le problème il n'est pas là. Il ne faut pas dire qu'il faut être innocent, il faut être illettré, je ne parle pas comme ça. Mais le minimum suffirait, vous avez des gens qui sont dans le privé, qui sont super intelligents, qui sont capables de gérer. Regardez M. Breton, là, c'est quand même pas un monsieur néant. Hein, c'est quelqu'un d'intelligent, mais je pense il a fait l'ENA, monsieur Breton.
Ben, c'est un entrepreneur, c'est différent,
oui,
c'est,
mais
c'est d'autres psychologies.
Vous avez vu comment il gère pas trop mal. Regardez, M. Sarkozy n'a pas fait l'ENA. C'est un président de la République qui venait du privé.
Mais... vous n'entendez pas ce que je vous dis?
Si, écoutez, allez-y, reposez votre question.
Ben, je vous dis, la haute fonction publique réclame des compétences particulières, des esprits aussi particuliers, sans doute, parce qu'un chef d'entreprise, ce n'est pas la même psychologie qu'un énarque. Ou quelqu'un
qu'est-ce qu'elle
qui
a
veut...
besoin de la France ? Qu'est-ce qu'elle a besoin de la France ? Des gens,
des gens qui sont efficaces.
Mais elle a besoin de gens qui sont...
Efficaces.
Mais pas efficaces, ça veut rien dire. Pardonnez-moi de le dire comme ça.
Si.
C'est service public. Moi, je veux pas... C'est comme quelqu'un qui s'engage dans l'armée. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes psychologies. Vous servez l'État, c'est pas la même chose que d'être dans le privé. Forcément, ouais, c'est des psychologies qui peuvent être un peu différentes, c'est tout ce que je dis maintenant.
Servir l'État ou servir soi-même.
Non. On prend François, un autre François Orbeck. François, bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Eh bien,
expliquez-nous.
Voilà. Moi, je suis un François qui ne va pas être d'accord avec François.
Ah.
Parce que j'estime que l'ENA doit être certainement transformée, mais on ne doit pas la supprimer pour autant. Parce que les hauts fonctionnaires, vous l'avez dit tout à l'heure Pascal, sont là pour servir l'État. Mais servir l'État, c'est servir même quand les politiques ne sont pas les mêmes. Parce qu'il faut qu'il y ait une continuité dans l'administration. Et s'il n'y a pas tous ces fonctionnaires, même qu'on les décrive ou qu'on ne soit pas d'accord avec eux, eh ben, l'administration serait stoppée au moment des élections parce qu'il faudrait attendre que la nouvelle équipe se mette en place. Et les hauts fonctionnaires, eh bien, il faut des écoles. Parce que administrer un État, ce n'est pas administrer une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui ne vont pas être les mêmes, qui ne vont pas être déterminées de la même façon. Et ça, c'est important. Et même si de grands chefs d'entreprise peuvent devenir des hauts fonctionnaires, il n'est pas certain que des hauts fonctionnaires puissent devenir facilement des chefs d'entreprise. Et c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, c'est-à-dire que ce ne sont pas des politiques, ce sont des serviteurs de l'État, et même si moi-même je trouverais qu'on pourrait peut-être les payer un peu moins cher parce qu'on est tous pingres un petit peu quelque part, eh ben j'estime qu'ils sont nécessaires à la bonne continuité d'un État comme le nôtre. Et ça, il ne faut pas le négliger.
François et Gilles, par exemple, prenons l'exemple d'un préfet. Un préfet, il sert l'État, nous sommes d'accord, mais ça demande des compétences techniques intéressantes. Par exemple, vous, Gilles. Demain, je ne peux pas vous nommer préfet.
Qu'est-ce que vous en savez ?
Ah bon, d'accord.
Vous savez, le problème
de la même manière
c'est que lui s'adapte. Non, attendez, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que je suis d'accord avec l'idée que la haute fonction publique demande une certaine formation. Mais de là à admettre qu'il ne puisse y avoir qu'une école qui puisse former, ça veut dire qu'on forme des gens qui sont monomaniaques, c'est-à-dire qu'ils pensent tous de la même manière. Les lois sont immuables, c'est-à-dire quand on parle de la loi, ça doit être la même pour tout le monde. En revanche, la capacité de trouver une solution, ce n'est pas la même d'un individu à un autre.
Bon, d'accord Gilles, merci pour cet argument. On va donner la parole à Laurent Tessier pour le débrief, mais quand je parle du préfet, j'imagine qu'il y a des compétences juridiques et économiques que tout le monde n'a pas et qui s'apprennent effectivement dans une école, et puis au fil du temps également, bien sûr, et puis social. Et cet aspect-là, réglementaire, j'imagine qu'il est très important. Le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission.
par Laurent Tessier.
Faut-il légaliser l'euthanasie? La loi doit-elle évoluer sur le sujet de la fin de vie? L'Assemblée nationale rouvre aujourd'hui le débat et vous avez été nombreux à nous appeler ce midi comme Evelyne.
J'ai 70 ans, j'ai eu une très belle vie, je veux une très belle mort. Des gens qui font plus de 35 kilos dans un lit de mort, et qui vont mourir tout seuls dans la nuit, sans sa famille, sans le dernier regard à ses enfants. Non, ça c'est une mort que je ne veux absolument pas.
Anne est infirmière, elle nous a parlé de son père.
Il arrive un moment où la fin de vie est totalement indécente et c'est terrible. Moi je l'ai vu même avec mon papa, c'était terrible, ces 3 minutes de flash de lucidité où on voyait ses larmes couler sur le visage et où il disait, il s'exprimait, il disait « mais aidez-moi à partir, mais non, on peut pas t'aider ».
Alex est chauffeur routier, il a tenu à prévenir de son choix en cas de grave accident.
Un papier dans mon portefeuille et dans ma cabine de camion qui interdit toute personne de me réanimer en cas d'accident grave. C'est-à-dire que si je perds l'usage de ma tête, de mes jambes, je ne veux pas être un poids pour la société, je ne veux pas qu'on me touche, tout simplement, et c'est un choix.
Autre témoignage, celui de Charline, directrice d'un établissement pour personnes âgées. Soulager les douleurs doit être une priorité.
Je ne trouve pas ça concevable qu'aujourd'hui, en France, on ne soit pas en capacité de soulager une douleur physique ou psychologique et que la seule issue possible soit la mort.
Mathieu, lui, a du mal à accepter l'idée d'une légalisation de l'euthanasie.
Ce qu'a dit Michel Houellebecq, là, c'est qu'on change de civilisation. Voilà. À partir du moment où on va accepter de donner la mort à un de nos compatriotes, c'est une fausse idée.
Ce sont des propos qui font réagir sur les réseaux sociaux. L'un des spécialistes de la chanson française, Fabien Lecoeuvre, a créé une polémique dans une vidéo.
Pour les chanteurs, quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des belles ou des filles sublimes? Bon, quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable, enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous, mais elle est effrayante.
Polémique en vue et Fabien Lecoeuvre s'est expliqué dans l'émission.
Je reconnais que j'ai été maladroit.
Mais c'est pas maladroit, les gens disent toujours maladroit.
Le bon qualificatif.
Mais c'est non, c'est
un dérapage.
Voilà.
Elle m'envoie surtout un poster.
Voilà, que vous mettrez dans votre chambre.
Je lui promets que je vais mettre un poster.
Ah ben voilà.
Alors comment sortir de cette polémique? Appelez l'agence de communication Pascal Pro and Polémics.
Bon, bah envoyez un bouquet de fleurs à Oshi.
Et voilà, c'est bien noté pour Fabien Lecoeuvre. Hier soir, il y avait.
Football.
Oui, quart de finale aller de la Ligue des Champions. Entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, dans quel état d'esprit étiez-vous hier, Pascal?
Ben, le PSG, ce n'est sinon un échec, du moins c'est une déception sportive. J'ai peur que cette mosaïque de joueurs qu'est le PSG explose en vol face au Bayern.
On vous fait confiance, vous êtes l'expert. Bon résultat hier soir.
Et c'est terminé, c'est terminé sur la victoire du Paris Saint-Germain, 3-2 sur la pelouse du Bayern Munich à l'Allianz Arena.
Une demande de Paris de pronostic demandée à Pascal Froux. Une dernière question à notre réalisateur Greg Caranoni.
Vous avez fait l'ENA, Greg Caranoni?
Bien sûr.
Promotion Christian Olivier.
Exactement.
C'est cela, oui. C'est cela, oui.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec désormais la chanson préférée de Fabien Lecoeuvre.
C'est Oshi, ça. Je vous trouve un charme fou. Flavie Flamand est là. C'est une question, c'est une chanson pour elle. Comme pour Pauline Desrouledes, que vous connaissez, qui est régulièrement venue à RTL et qui est dans ce studio. Et j'imagine que ça va être un grand entretien dans quelques secondes. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.